Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC.
RMC.
On va rester sur la progression par rapport à ce qu'ils ont fait dernièrement en championnat. Mais je pense qu'il faut être réaliste.
J'aurais dit, hein, regardez les stats. À un moment donné, le hasard, ça arrive jamais par hasard.
Quand je dis que l'entraîneur et le mari, c'est le dernier à savoir la chose, c'est vrai. Si elle est à les cornes, comment ça fait? Si elle est coucou, c'est le dernier à savoir la chose.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'after, after-foot, l'after. Premier podcast de France, espace de liberté pour tous les supporters acteurs du monde du foot. On vous attend au 32-16 jusqu'à minuit et demi. Ensuite, ce sera la libre antenne de l'after qui suivra jusqu'à 1h30. Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
La Roumanie et la Slovaquie font un partout. Belgique-Ukraine 0-0. On va revenir sur ces matchs. On va parler de la Géorgie qui crée l'exploit ce soir et bat le Portugal 2-0. Bravo Willy Sagnol. La Turquie bat la République tchèque 2-1. Nous avons donc le tableau complet des huitièmes de finale que je vais vous donner dans quelques instants. Le 32-16 est ouvert, direct studio également. On parlera de l'audition également de Vincent Labrune au Sénat aujourd'hui, de l'équipe de France où il commence à y avoir quelques tensions. Les remplaçants sont moyennement contents, Deschamps ne les calcule pas, on se plaint de l'intensité des séances d'entraînement. On vous raconte ça tout à l'heure après minuit bien sûr. Et puis je vous rappelle qu'on est à 52 jours de la reprise des Ligue 1 et que le foot français n'a toujours pas de contrat de télé, faillite virtuelle toujours en cours. On attend des news, il n'y en a pas eu aujourd'hui.
Ah bah il y a eu l'audition du patron.
Ah bah du coup,
forme de news, hein.
Oui. Enfin bon, ils n'ont rien signé, tu vois.
Il a dit qu'il travaillait.
Bon, il a dit d'autres trucs.
Oui.
Bon, la Ligue 2 a été signée hier. Donc oui. La Ligue 2 n'est plus en faillite. Déjà ça. Le Red Star est sauvé, oui.
On pourra voir les matchs du Red Star sur Beansport.
On va en parler de tout ça.
Bon, le tableau des 16e, maintenant qu'on connaît tous les résultats. Alors, je vais démarrer par la moitié de la France. Donc, le tableau des 8e, la France affrontera donc la Belgique. La France affrontera, si elle passe, le vainqueur de Portugal-Slovaquie. Voilà.
Mm-hmm. Non, Slovénie.
Slovénie, tu as raison. Excuse-moi, Walid, tu as raison. Slovénie, Portugal-Slovénie. Si la France passe. Dans l'autre quart de tableau, toujours celui de la France, qui pourrait être l'adversaire de la France en demi-finale. L'Espagne affrontera la Géorgie. L'Allemagne affrontera le Danemark.
C'est là que c'est costaud quand même.
Là, c'est la grosse partie de
tableau. Le haut du quart, ça veut dire que tu peux avoir quand même un quart.
Ouais.
Et très probablement, au vu des adversaires,
oui. Portugal,
Espagne-Allemagne.
Espagne-Allemagne et Portugal, France ou Belgique.
Mais pour la France, tu pourrais avoir Belgique, Portugal, Allemagne ou Espagne pour aller en finale.
Ben voilà.
C'est Roland où tu prends Nadal, Djokovic et Federer.
Il fallait gagner hier. Oui. C'est comme ça.
Ouais.
Et puis dans l'autre moitié de tableau, la Roumanie affrontera les Pays-Bas. L'Autriche affrontera la Turquie. Les vainqueurs de ces deux matchs se rencontreront en quart de finale. Donc les Pays-Bas pourraient retrouver l'Autriche. C'est un peu un effet pervers de la formule là, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et puis dernier quart de tableau, l'Angleterre jouera la Slovaquie et la Suisse jouera l'Italie. Ça, on le savait déjà.
Partie de tableau assez abordable pour beaucoup d'équipes.
Les Pays-Bas, c'est assez drôle parce que finalement,
ils font troisième et
terminent troisième. Ils ont quand même la partie de tableau censément la plus facile.
Bon, dans cette phase de poule, il fallait terminer premier ou troisième pour la France. Pas deux.
Ouais, oui. T'aurais eu France, ouais, c'est vrai.
C'est bizarre ces phases de poule avec ces troisième places.
Bah c'est
des choses un peu étonnantes.
C'est la règle, quoi, qui
et puis, l'Angleterre, qui a fait une phase de poule pas loin d'être minable, se retrouve dans une partie de tableau avec pas mal de perspectives intéressantes.
Dans cette partie de tableau-là, tu as les Pays-Bas qui n'ont pas été en ballon loin de là, qui peuvent se dire « Tiens, on a un coup à jouer
ouais. ».
T'as l'Angleterre qui peut se dire la même chose. T'as l'Italie qui a pas montré grand-chose, mais peut se dire « Bon, boosté par la fin de match, si on retrouve un peu de confiance, il y a peut-être aussi quelque chose. »
La Suisse.
Écoute, moi, c'est l'Autriche. Depuis le début de la compète, je dis que cette équipe a beaucoup de qualité. Et s'il doit y avoir un invité surprise, je miserai là-dessus, sur l'Autriche.
Je suis d'accord.
Parce que s'il retrouve les Pays-Bas en quart, vu ce qu'ils auront fait la dernière fois, je dis pas que forcément tu le refais, hein. Mais
après, Autriche-Turquie, ça va être intéressant aussi, parce que quand tu vois le contingent turc dans les stades, là, encore une fois, la fête, elle est extraordinaire.
Oui, ça s'est fini de façon un peu chaotique, d'ailleurs, le match Turquie-République tchèque.
Tu te dis que ça peut être une force pour les Turcs, quoi.
Exactement. Bon, on va se régaler avec ces matchs-là.
Non, mais c'est bien. Le bracket est là. Vivement les huitièmes de finale.
Oui,
c'est
parce assez, que là, c'est ce assez soir, excitant. C'était sympa, mais on a quand même eu, il faut le dire, aujourd'hui, c'était triste. Hier, c'était triste.
Aujourd'hui, c'était mieux qu'hier.
À 18h, ce soir,
à 18h, franchement,
c'était 18h,
il fallait pas avoir sommeil. Hein. Et il se trouve que, après notre courte nuit, retour de Bretagne, 18h, ça n'a pas été un bon horaire.
L'enchaînement 21h hier soir et 18h aujourd'hui, il fallait être très costaud.
Je dois te dire que le début de la deuxième période, faut pas me demander ce qui s'est passé.
Le match de la Roumanie, vous êtes dur.
Oui, d'accord.
Enfin, Belgique, la Géorgie, c'est quand même une grosse sensation.
J'étais plus devant Belgique-Ukraine. Ouais. Je t'avoue que retour de vestiaire 19h, 19h20, j'ai tout lâché.
Non, ce soir, par contre, c'était mieux.
Ah oui, c'était mieux. La pire journée, c'était hier, entre la France et l'Angleterre.
Oui. Heureusement qu'il y avait le Pays-Bas Autriche.
Bah oui. Bon, les gars. Allons-y sur le Portugal-Géorgie, parce que c'est quand même la sensation du soir.
Après la Belgique, j'allais dire, c'est une équipe, j'ai l'impression, c'est une équipe de dépressifs.
On va faire ça par...
Ils sont en dépression, à l'image de De Bruyne, ils sont en dépression.
Oui, on va en parler tout à l'heure. Effectivement, il y a grosse crise en Belgique, on aura même un journaliste belge avec nous. On va accueillir dans quelques secondes Vincent, qui est supporter portugais. Enfin là... Pardon, Willy Sagnol qui a fait partie de l'after. Il a fait quelques afters avec lui il y a quelques
quand
temps.
Quand tu passes dans l'after, il se passe toujours quelque chose. Tu peux pas dire que c'est sans conséquence.
On l'a sublimé peut-être.
C'est sans conséquence. Tu quittes l'after.
Vous aimez trop
ça. T'as une carrière dans les médias qui t'est ouverte partout. Voilà. C'est un tapis rouge partout.
Tu mesures pas encore tout ça. Tu verras bientôt.
T'es venu là, t'as été.
Non, les gars, on va pas parler de l'after ce soir sur Sagnol.
Bah, Willy Sagnol, il passe ici, regarde ce qu'il est devenu.
Oui, d'accord. Enfin,
on parle de Damien Perrinet. On parle de Simone Rovera. Ouais. On parle de toutes ses carrières.
David Bay.
David Bay, bien sûr.
Il lui a fallu deux fois. En deux fois.
Lui-même te l'a dit.
Non, mais Sagnol, je pense pas à l'after quand je pense à Sagnol ce soir, en fait, Daniel, excuse-moi. Non,
mais c'est un peu comme quand tu rentres dans un temple. La lumière. Tu sais, la lumière du Seigneur arrive sur toi. Et
ah ouais, carrément.
Voilà, c'est ça.
Non mais c'est le gros coup de la soirée la Géorgie, sincèrement. Cette équipe qui a souffert pendant les trois matchs avec un gardien Mamardashvili qui est énorme, qui est pour moi avec
le meilleur gardien de l'Euro
ouais. Avec Donnarumma un petit peu en dessous, mais il a encore fait des arrêts monstrueux aujourd'hui. Déjà contre la République tchèque, il avait été énorme. Et puis notre petit Miko Tadze devant, qui est encore très très efficace. Gvara qui avait été décevant sur les deux premiers matchs, qui a fait un match extraordinaire. Dukeur, ils sont dans le dépassement de fonction perpétuelle. Ils ont subi, hein, parce que tu t'appelles la Géorgie et que tu joues quand même le Portugal. Mais les voir passer comme ça, on parle souvent de l'Euro à 24, des inconvénients, des avantages. C'est vrai que le niveau, il reste fluctuant. Mais quand tu vois leur joie à la fin du match, c'est leur premier Euro. Ça reste quand même des très belles histoires et c'est magnifique.
Après, les belles aventures, sans rien retirer à la Géorgie, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, les belles histoires sont également favorisées par la formule. Parce que tu te retrouves avec une équipe du Portugal qui n'a rien à jouer pratiquement, et je dis toujours que dans le sport, quand la défaite n'est pas rédhibitoire pour toi et qu'elle ne t'élimine pas, dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est pour moi bloquant pour l'analyse de la performance de celui qui est dans cette position-là. Quand la défaite ne t'atteint pas, tu ne peux pas donner le maximum de toi-même. Et je pense que les Portugais, d'abord, ils avaient fait tourner, et deux, déjà qualifiés.
Après, il fallait les taper hein, quand même, le Portugal ce soir.
C'est pour ça que je vais arriver à la Géorgie. Je ne retire rien. Les belles histoires sont également favorisées par le contexte.
Sur la
proposé.
Formule à 24, c'est intéressant ce que tu dis. Mais à 16, il y avait aussi des équipes qualifiées après deux matchs qui jouaient un match qui servait à rien ou au moins uniquement la première place.
Oui, non, mais sur l'autre formule, je dis.
Oui,
d'accord. Te permettent. Et puis là, quand t'es troisième, tu passes. Là, ils sont troisième.
Oui.
À la Géorgie. On est heureux. C'est une magnifique histoire. Et c'est pour ça que je dis que cette formule à 24 avec les meilleurs troisièmes, elle a quelque chose qui au fond peut être très séduisant, quoi, parce que ça te donne l'opportunité de découvrir des joueurs, c'est magnifique.
Il y a des avantages, des inconvénients.
Bon. Je sais pas si vous y avez pensé pendant le match, un peu moins vers la fin, mais on était au milieu du match, j'ai repensé à Portugal-Maroc de la Coupe du Monde, parce que la Géorgie s'était plus ou moins disposée de la même façon. Ils ont marqué vite.
Avec un très beau but en transition.
Ensuite, ils ont tenu. Il y a des très beaux joueurs dans la sélection du Maroc. Il y en a également dans cette sélection-là. Et tactiquement, c'était grosso modo la même proposition. Et Miko Tadze et Vara sont de très bons joueurs, tous les deux. Et ils ont plus ou moins fait la même chose. Peut-être même que la Géorgie, à un moment dans le match, a même proposé un peu plus de jeu que le Maroc en avait proposé contre le Portugal.
Après,
à la Coupe du Monde.
C'était deux contextes différents.
Mais c'est des choses qui se ressemblent.
Quart de finale de Coupe du Monde.
Et où j'ai vu un Portugal, de la même façon, emprunter, avoir beaucoup de mal. Bon, on va dire, beaucoup d'équipes ont du mal contre les blocs bas, comme ça, à contourner, à pas mettre de rythme, à pas accélérer. Mais les Portugais ont toujours beaucoup de mal quand c'est comme ça.
Ça tricote, mais tu sens qu'il y a un manque d'impact. Et après, tu tombes sur aussi un très, très bon gardien ce soir. Ah bah, et comme tu l'as dit, t'avais le sentiment que la victoire n'était pas impérative pour le Portugal avec une grosse, grosse revue d'effectifs. Et quand tu vois certaines individualités ce soir, Antonio Silva, notamment, qui est un jeune joueur portugais, qu'on avait découvert un petit peu contre le PSG il y a 2 ans où il avait été très, très bon. Mais cette année, il passe complètement à côté. Il y a eu, en fait, l'assemblage de deux objectifs bien, bien différents. Et la Géorgie a très, très bien joué le coup. Il y a un milieu de terrain, la Kochorashvili, qui joue en Espagne, qui fait lui aussi un très, très bel rôle numéro 6. Voilà, il y a un truc assez cohérent, une ligne directrice, et puis tu as les deux de devant là, Gvara et Mikotadze, qui à chaque fois qu'ils ont des situations avec un peu d'espace, ils te font la différence. Donc bravo à la Géorgie. Et puis oui, le match contre l'Espagne va être intéressant parce que tu parlais du Maroc Portugal.
C'est ce que j'allais enchaîner là-dessus en disant ça ressemble à ça. Ils sont capables de les emmerder de la même façon. L'Espagne, on l'a assez dit ces derniers jours, a évolué notamment grâce à ces deux joueurs de percussion sur les côtés qui permettront probablement de percer plus cette défense. Mais oui, et la Géorgie, elle a également montré quelque chose qu'on n'a pas vu dans les derniers matchs où on s'est un peu ennuyé. Et c'est quand même très agréable de voir ça quand tu regardes un match et que t'es neutre comme ça. C'est la générosité, la détermination, comme tu appelles ça, le dépassement de fonction. Mais bon, voilà, c'est aussi la base du sport de haut niveau, quoi. Tu te défenses sur le terrain, tu donnes tout. T'as l'impression que les joueurs sont à bloc entre eux, à bloc avec le coach. Il y a une unité. Quand tu fais la différence avec ce que tu vois de la Belgique, de l'Angleterre, parfois même de la France, tu dis, bon, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire sur le terrain? De toute façon, c'est simple, hein, y a un élément qui trompe pas. Tu regardes à la fin les kilomètres parcourus. Après, tu analyses la tactique, il y a des joueurs de talent, il y a des joueurs capables de frapper, de dribbler, de faire des bonnes passes et tout. Évidemment, tout ça, c'est
encore... Et est-ce que aussi, il y a
déjà
pas une fraîcheur
base,
physique?
Il y a une base quand même.
Il y a une fraîcheur physique peut-être chez ces joueurs que tu n'as pas sur.
Ah, ils jouent tous des championnats.
Oui, mais tu vois, par exemple, Mikotadze, les 6 premiers mois, ils jouent pas à l'Ajax. T'as des joueurs quand même qui sont pas dans les plus grands clubs tu vois, quand tu vois Bellingham
il est évident que dans ces tournois, le côté athlétique, la fraîcheur physique, ça compte beaucoup. Mais quand tu vois les Anglais, c'est l'impression qu'ils te donnent, c'est ils sont fatigués ils veulent même pas courir, ils veulent pas se défoncer.
Pas que, mais je vois quelques. Et je parle pas que de l'Angleterre, mais chez les gros notamment, il y a 2-3 signaux chez certaines stars qui m'inquiètent un petit peu moi. Mais après, ça c'est un autre débat. Mais pour revenir sur le Portugal, parce qu'il faut parler
Allons-y. Maintenant, on a dit beaucoup de bien de la Géorgie. On aura peut-être des réactions dans la soirée.
Le Portugal, globalement, fait une phase de poule très correcte avec ses 6 points avant ce match-là, qui restera quand même anecdotique parce que tu as fait une grosse revue d'effectifs et hormis Ronaldo et peut-être Dalot sur le premier match et le gardien, ça a fait énormément tourner. Mais moi, le Portugal, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que j'ai peut-être choqué, hein, mais que leur phase de poule, elle est un peu surcotée.
J'ai dit ça hier. Tout le monde m'a dit, ils ont fait 2 matchs. J'ai dit le premier match, j'étais pas content. Ouais. Le deuxième, m'a plu.
Oui, mais le deuxième, il est bien. Mais je le trouve surcoté, le deuxième. Parce que t'as un deuxième but turc qui a 1-0. Les Turcs se mettent un CSC tout seul. Et je trouve qu'ils ont quand même concédé. Donc ils sont là.
Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a tellement de qualité dans cette équipe.
Exactement.
Que j'étais toujours en train de dire
venir.
Cette qualité va faire la différence. Mais eux, on est typiquement dans le fameux cas de figure dont on parle très souvent. Ou de la technique, des stars à tous les postes, mais attention, il leur manque les fameux 2 joueurs que l'Espagne a.
Ouais, et surtout,
ils ont du mal,
changement de rythme.
Et en plus, avec Cristiano qui monopolise le poste devant,
Moi, même s'il est mieux, Ronaldo, parce que moi, en 2022, j'avais
beaucoup critiqué. En termes de percussion, ils ont du mal, les Portugais. Il leur manque ces joueurs-là.
Mais un Leao, normalement, devrait être ce Nico Williams. Et il le fait, il le fait très peu.
Leao, il faut qu'il ait l'espace.
Exactement,
parce que quand il est phase arrêtée avec bloc bas, il avance pas.
Il l'avait un peu.
Et il dribble pas du tout comme Lamine Yamal et comme Nico Williams. Il a beaucoup plus de mal sur en phase arrêtée.
Il l'avait fait un peu contre la Turquie, mais je trouve quand même que, faut rappeler qu'ils sont menés 1-0 contre la République tchèque, qu'ils marquent un CSC sur ce match-là. Enfin, que la République tchèque concède un CSC, tu marques à la 93e minute, et le match contre la Turquie, moi j'ai trouvé, oui, sur attaque rapide, ils ont fait la différence, t'as eu une certaine efficacité, tu mènes 3-0 à la 60e minute, mais pour ceux qui ont véritablement regardé le match, et si on gratouille, moi je trouve que c'est pas dingue non plus par rapport au réservoir que t'as, par rapport aux joueurs que t'as.
Le sentiment de tu peux mieux faire, il est là.
Alors peut-être qu'ils iront au bout, hein, parce qu'ils ont les joueurs pour, et que là ils ont Slovénie, France, Allemagne, Espagne, donc ça va être quand même, ça va pas être simple pour eux. Mais moi, leur phase de poule, je suis pas totalement satisfait malgré le fait qu'ils soient premiers de cette poule.
Et dans ma liste, d'ailleurs, quelqu'un.
Mais après, c'est le cas pour beaucoup d'équipes.
Un auditeur très sympa m'a fait la liste, tu sais, les fameux joueurs de côté des 10 dernières années, là.
Oui.
On en a encore vu un là, hein, Jean-Félix. 100 millions. Voilà, on a acheté.
Après, je disais, toi, Jean-Félix, tu le mets joueur de côté.
Bah, quand il arrive, quand on le découvre et tout,
il est plus 10 à Benfica. Il est 9,5. Je le mets 9,5, moi, Jean-Félix.
Il arrive dans sa catégorie. Il entre dans la catégorie des mecs qui vont jouer dans un 4-3-3 en haut à gauche ou en haut à droite. C'est là qu'il a tout le temps été placé, en tout cas, la plupart du temps. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est probablement pas là qu'il est le meilleur. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'il est le meilleur.
Pour moi, c'est un 9,5.
Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est très difficile de jouer avec lui.
C'est comme ça qu'il gagne le titre.
Tous ces joueurs-là, toute ma liste, sont des mecs qui posent problème au final et qui sont très durs à faire jouer.
Ouais.
Sauf quand ils sont en jambes,
mais après,
au début, et qui sont capables de faire des diffs, des frappes. Tu te rends compte l'argent qui est mis sur ces joueurs-là.
Ouais, mais ils marchent à la dynamique, ces ailiers. Et après, moi, mettre des milieux de terrain sur les côtés.
Je vais te retrouver ma liste.
Milieux de terrain sur les côtés. Quand tu vois les matchs de l'Espagne, tu te dis que les ailiers dans le football moderne, c'est quand même très très important. Alors ouais, ils font mal à la tête. Tu vois, par exemple, Doku qui a fait un super match contre la Roumanie là aujourd'hui, il m'a fait mal à la tête. Mais ça reste des mecs déstabilisateurs et qui permettent quand même d'avoir sur attaque placée des différences, parce que quand tu vois certains qui se regardent, c'est compliqué. Hein.
Elle est longue la liste. Vas-y. C'est un bon, tu vois. Donc ils sont pas tous au même niveau, hein, mais c'est des gars qui à un moment ont une hype et des gars qui ont été cotés et qu'on a voulu dans les clubs. Hein. Donc c'est pas ordre alphabétique, hein, c'est pas que je veux commencer par lui. Donc Alan Saint-Maximin, Guiri, Ansu Fati, Anthony Martial, Anthony.
On rappelle le concept pour ceux qui n'ont pas tout suivi.
Les joueurs à un moment sur qui on a mis beaucoup d'argent et qui sont les attaquants cotés, qui depuis 10 ans dans le foot sont
sur
les joueurs
recherchés. Sur le côté
recherchés.
Ou côté en termes de prix?
Non, c'est attaquant de côté, les neufs.
Okay.
Dans la catégorie 7-11, on faisait les chapeaux, tu vois.
Martial est un peu plus axial pour moi. Mais oui, au début.
Martial, quand il arrive, on le prend à Manchester, c'est quand on met les 80 millions sur lui, c'est pour qu'il aille dans un 4-3-3 sur un côté.
C'est vrai.
En fait, après, le fait qu'il pose problème ou qu'on se demande réellement où, ça, c'est encore autre chose. Mais au début, c'est un attaquant et c'est pas un neuf. Mecs-là ont été recherchés. Donc après, j'ai encore Danjuma, Pulisic.
Oui.
Coutinho, David Neres, Dembélé, Diogo Jota,
Plus 9 pour moi.
Berardi, il y avait Draxler, bien sûr, il y avait Bernardeschi, Chiesa, Felipe Anderson, Ferran Torres, Thauvin, Martinelli.
Bon, le Portugal, les gars, après, parce que sinon ta liste, elle peut être très longue là.
Elle est très longue, mais je t'assure que c'est que des mecs qui ont été hyper cotés et qui ont fait des carrières très bizarres.
Décevant, ouais.
Et là, il y a encore Grealish, t'as encore Ressé.
Après, Grealish et Ressé.
Dans un instant, Vincent, au 32-16 supporters portugais.
C'est vraiment très, très décevant.
Beaucoup de choses à dire sur Grealish, Portugal. Grealish et Galilée, champion de passer à la Belgique et à l'équipe de France.
Il a réussi là-bas.
Oui.
La carrière, regarde, Grealish, c'est déjà fini.
Oui.
À tout de suite dans l'after.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, l'afterfoot, intégral Euro.
Gilbert Bribois.
23h19, Walid Acharchour est là, Daniel Riolo est là. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit 30. Ensuite, ce sera la libre antenne comme tous les soirs de l'Euro. Tiens, d'ailleurs, laissez-moi vous dire que hier soir, nous étions à Fougères, oui. Bien sûr, et on s'est régalé. Lundi prochain, nouvelle destination.
Pour la Belgique ?
Ah oui, c'est tombé aujourd'hui.
Eh oui, pour le match de la Belgique.
Donc
on continue notre tournée des clubs qui ont révélé nos internationaux français. Lundi prochain, nous serons dans la région bordelaise, à Artigues. Le club d'Aurélien.
Martigues, hein.
Ouais, exactement.
Martigues, j'ai vu aujourd'hui qui est.
D'Aurélien Tchouaméni.
Martigues, j'ai vu qu'aujourd'hui, ils allaient jouer leur match de Ligue 2 au Vélodrome.
Oh.
Ouais.
Ça m'a totalement échappé, cette info.
Ah, si, j'ai vu l'info.
Ah bon.
Ah si ?
Ça me paraît pas possible.
Ah bah.
Ils vont faire la saison de Ligue 2 au Vélodrome.
Ouais, toute la saison.
Marseille va prêter le stade.
Ouais, j'ai vu ça.
Donc ça veut dire que toutes les semaines, il y aura un match au Vélodrome.
Ouais, oui, j'ai vu ça.
Ça paraît pas possible.
D'accord, moi j'ai vu.
Bah écoute, pourquoi pas.
Vérifier, mais
ça m'étonnerait, franchement.
Après, est-ce que ça sonnera pas un peu creux ? Bon, je sais pas.
Ah, mais c'est pas Koundé, c'est Tchouaméni.
Oui.
Koundé, il est de Bordeaux aussi.
Oui, mais pas du même, pas du même endroit.
Ah, on n'a pas fait d'une pierre deux coups.
Après, on n'a rien contre Jules Koundé, hein, bien au contraire.
Bien sûr.
On peut inviter aussi ses formateurs, les gens de son club, il n'y a pas de problème. On vous donnera plus d'infos dans la semaine. Si vous voulez venir assister à l'after, ce sera évidemment possible. Et puis, il y aura un écran géant pour voir le match. On l'offre à la France et la Belgique. Vincent est là, supporter portugais. Salut Vincent.
Bonsoir à tous.
Bon.
On démarre, salut Vincent.
On démarre par le cas Cristiano Ronaldo ou par une analyse générale ?
Analyse générale, s'il te plaît.
Très bien. Bon, je te sens contrarié. Qu'est-ce que tu veux dire alors ce soir ?
Moi, je voulais juste dire que on a vu une équipe qui jouait avec le cœur et une équipe qui jouait avec la peur. Je m'explique. Une qui voulait aller se qualifier en 8e de finale pour la première fois et une où les joueurs avaient peur pas de perdre le match ou quoi que ce soit, mais ils avaient peur de faire quelque chose de mal et de ne plus jouer en sélection. Et ça a été le cas. Et en fait, ils n'ont rien tenté. Ils ont fait des choses qui étaient inutiles.
Tu penses à qui ?
Je pense à Antonio Silva, le pauvre, même si pour moi, sur le deuxième, il n'y a pas pénalty.
Moi aussi.
Bon, après, il y avait plus pénalty sur Cristiano Ronaldo quand il tire le maillot que cette faute-là. Mais pour moi, ce n'est encore que mon avis.
Tu veux dire une sorte de fragilité psychologique générale, en fait ? C'est ce que tu veux dire ?
Exactement. Si on parle.
Parce que bon, les qualités de footballeur, ils les ont. Je veux dire, c'est pas.
Oui, bien sûr.
Même si il a quand même pas mal fait tourner aujourd'hui, hein, le coach. Hein, faut quand même rappeler
ouais,
que.
Faut pas se foutre de nous quand même. On a quand même des joueurs qui sont quand même de classe mondiale.
Aujourd'hui, t'as une belle équipe, malgré le turnover, t'as des très bons joueurs. Hein.
Exactement, c'est comme l'équipe.
Le seul qui tourne pas, c'est Cristiano, de toute façon.
Qui était fâché de sortir, j'ai pas compris.
Ouais, non, je pense qu'il n'était pas fâché de sortir, il était fâché du résultat et du fait qu'en fait, ce soit une équipe qui était triste à avoir joué. En fait, moi, je me suis fait chier devant le match. Hein. C'était pas.
Tu t'es fait chier parce que tu supportes le Portugal, parce que nous qui regardions ce que faisait la Géorgie, c'était un bon match.
Alors attention, je me suis fait chier en regardant le Portugal jouer, je me suis pas fait chier en regardant la Géorgie jouer.
J'ai compris.
Bon, après, le Portugal finit premier de la poule, tu peux très bien considérer, c'est un peu leur France-Tunisie, tu vois, au Portugal peut-être.
Tout à l'heure, il y avait la comparaison avec le match contre le Maroc, et je suis complètement d'accord, sauf que le Maroc, ils avaient mis le bus. Et là, ils n'ont pas mis vraiment le bus, parce qu'ils ont quand même créé beaucoup plus de jeux. Dans le milieu de terrain, c'était beaucoup plus intéressant que le match qu'on a vu en 2022 contre le Maroc. Et on a vu que contre le Maroc, le Portugal a mis beaucoup plus en danger l'équipe marocaine que là ce soir l'équipe de la Géorgie.
Non mais t'insistes sur un point qui est important, c'est l'aspect mental. Parce que moi c'est, on parle de jeu, on parle de joueurs qui répondent pas tout le temps présents dans les grosses échéances avec le Portugal. Donc c'est un mix de tout qui me fait dire que. Il y a un point d'interrogation pour moi sur la phase finale des Portugais, parce que c'est vrai que depuis 2016, c'est une équipe, c'est pas une équipe de beaux joueurs. Il y a des beaux joueurs, mais c'est une équipe de tontons. C'est quelque chose de très très solide. C'est Fonte et Pepe derrière. Au milieu de terrain, c'est Adrien Silva. Il y a les revanchards devant, Quaresma, Nani, qui entourent Ronaldo. Là, on a une équipe de beaux joueurs. et même de très bons joueurs en Europe. Mais quand on regarde les derniers résultats, quand tu vois que tu te fais sortir par le Maroc en quart de finale, déception. Quand tu vois qu'en 2021 contre la Belgique, t'es meilleur que la Belgique en huitième de finale, tu te fais avoir sur un but belge et derrière il ferme et t'es dans l'incapacité de retourner le match. Tu penses aussi en 2018 à l'Uruguay, le match contre l'Uruguay avec la très grosse volée de Cavani. C'est-à-dire que pour passer ce cap-là, les Portugais, pour être fiable le jour J, moi j'ai toujours, et c'est intéressant que tu parles de l'aspect mental, parce que si même les remplaçants sur un troisième match contre la Géorgie, bah tu le ressens ça devant ta télé, qu'est-ce que ça va être contre la France en quart de finale ou contre l'Allemagne ou contre l'Espagne? Ça c'est un doute quand même.
Parce que là je suis pas d'accord avec toi. Tu me dis ça depuis quand il y avait Fernando Santos, etc. Par contre, quand tu regardes les phases de qualification du Portugal,
oui,
Portugal, meilleure défense de buts encaissés.
Les phases de qualif, tu joues pas les mêmes adversaires, c'est pas les mêmes contextes, ça n'a rien à voir. C'est pas un tournoi, le jeu de tournoi, c'est pas la même histoire.
Mais bien sûr, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais on revient quand même sur ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même emmagasiné une certaine confiance depuis que Roberto Martinez il est là. Et que là, t'as trois joueurs titulaires depuis le début du tournoi qui sont présents sur le terrain. Le reste, c'est, comme on les appelle, entre guillemets, sans être méchant, des coiffeurs. Et ben, tu vois que, et ben, ça manque de rythme, ça manque de confiance, ça manque de mental, ça manque d'un tout petit peu de fantaisie. Et quand tu regardes le match, et ben, du côté géorgien, tu te dis, ouais, c'est fantastique, Niko Tadze, Gvara, ils ont fait des matchs de folie. Et à côté, tu te dis, le Portugal, ils étaient inexistants.
Non, mais t'as raison d'insister sur la dynamique de qualification. Après, moi, je te dis que, avec tout le respect que j'ai pour le vivier portugais, pour ce que ça doit être sur le terrain, c'est pas la phase de poule contre Liechtenstein, Luxembourg, contre la Bosnie-Herzégovine et l'Islande, où ça va être le juge de paix.
C'est pas là où t'as un match référence. Voilà. Le problème pour le Portugal, c'est le gros match référence en compétition internationale.
Pour l'instant, je ne l'ai pas depuis très longtemps quand même. Et ça, pour moi, ça reste quand même un point d'interrogation sur le fait, parce que l'objectif du Portugal, c'est quand même d'aller très très loin dans cette compétition.
Comme à la dernière Coupe du Monde, où l'objectif n'était certainement pas... Moi, je me souviens, quand le Maroc sort l'Espagne et qu'on sait que le Maroc va jouer le Portugal, qu'est-ce qu'on se dit? Ça va, le Portugal, ils ont vu comme l'Espagne. C'est fait avoir par le Maroc. Eux, ça va pas passer. Et là où on attendait l'Espagne qui devait en coller deux ou trois au Maroc, c'est le Portugal qui va le faire. Résultat, on s'est tous plantés. Le Maroc a super bien joué le coup et a endormi.
Surtout après le 6-1 contre la Suisse en
8e. Ils ont même beaucoup mieux joué le coup, les Marocains, contre le Portugal que contre l'Espagne.
Et pour le coup, si tu regardes la fin de match, enfin les 15-20 dernières minutes, les joueurs qui rentrent côté marocain, c'est des joueurs qui sont pas à la base dans le synopsis de la rencontre, avec beaucoup de blessés, beaucoup d'absents.
Donc le Portugal a pas mal de déceptions à effacer quand même.
Non, mais on en revient sur des joueurs qui jouent avec le cœur et des joueurs qui jouent avec la peur. On pourrait bien.
T'es d'accord avec moi au final?
Oui, je suis d'accord avec toi au final.
Mais je sais pas, qu'est-ce qui te permet, comment tu évalues le fait qu'il soit faible psychologiquement, qu'il joue avec la peur, ça serait quoi l'histoire de ça en fait?
La moyenne d'âge des joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui, elle était super basse.
Moi je maintiens mon explication qui ne plaît pas aux Portugais globalement.
Je l'écoute.
C'est Cristiano Ronaldo.
Un peu moins sur cette phase de poule.
Non, mais pour moi, s'il doit y avoir un problème psychologique, c'est lui qui a annihilé la prise d'initiative de tout le monde. Ses colères répétées ce soir, son cinéma.
Je suis d'accord avec toi.
2016 a été son apogée, même en équipe nationale, quand il ne jouait pas, comme à la finale où il sort au bout d'un quart d'heure, sa présence transcendait la fameuse équipe que Walid a appelée Tonton, mais de mecs un peu costaud, qui était là depuis longtemps, qui avait un peu morflé ce titre que tout le pays attendait, la récompense suprême. Il était incontestablement le leader. Il avait vécu depuis 2004 pas mal de déceptions où le Portugal méritait à chaque fois mieux. Voilà. Derrière, quand il a commencé à passer de l'autre côté de la montagne, Pour moi, il handicape le développement des autres.
En tout cas, dans le jeu. Bah, non, mais moi, après, moi, j'étais complètement d'accord avec toi en 2022 et je pensais qu'il allait arrêter. Mais sur la phase de poule, je le trouve très altruiste. Je le trouve plutôt en jambes par rapport à il a 39 ans, hein, mais par rapport à ce qu'il faisait en 2022. Le seul.
Je sais pas si psychologiquement il aide les autres ou il handicape.
Je sais pas. Après il va falloir qu'à un moment donné
Ta personnalité elle est écrasante.
Après à un moment donné les Bernardo Silva, les Bruno Fernandes, il va falloir qu'ils s'imposent ces mecs-là. Hein. Quand tu vois le bilan de Bernardo Silva au Portugal.
Mais Walid, je crois que tu mesures pas ce que c'est au Portugal, Cristiano Ronaldo. C'est l'équivalent d'une sorte de dieu.
Non, je suis d'accord.
C'est compliqué. Nous, on est là, on est en France. Ronaldo, il nous a fait kiffer. Real, c'est un joueur fabuleux, un des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Au Portugal, c'est encore. Enfin, sa personnalité, quand t'es à côté de lui, pour les joueurs, c'est un vrai
Par
souci.
Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que.
Bon. Messi a surpassé ça pour transcender toute l'équipe en 2002.
Oui.
Voilà.
En 2002, qui ?
À la Coupe du Monde. Oui. Voilà. Ronaldo, il a eu du mal à le faire avec les jeunes là, avec les gars qui l'entourent et qui le voient comme un dieu.
Moi je trouve que c'est un peu mieux, c'est mieux sur la phase de poule. Maintenant là où je suis d'accord avec toi, c'est que déjà j'étais surpris moi qu'il joue ce soir, parce que je pensais qu'il allait vraiment se reposer pour les huitièmes de finale. Et bon, tu me dis que comment s'appelle l'auditeur ? J'ai oublié son nom.
Vincent,
tu me dis que c'est uniquement il est frustré parce que il a fait un mauvais match, parce qu'il perd. Moi je suis désolé. Son cinéma, comme vient de le dire Daniel, il n'a pas à le faire à la fin. C'est-à-dire que Ramos, il n'a pas eu une minute sur les deux premiers matchs. Ronaldo a joué tout. Il peut sortir quand même qu'à 15 minutes de la fin. Et
en serrant la main. Tu veux quand t'es un attaquant
dans le jeu, je le trouve poids. Je trouve pas. Valide. Je mets une nuance là-dessus. Mais par contre, là, tu peux pas faire ça.
Comment veux-tu quand t'es dans une équipe, sur le banc, dans un groupe, enfin, t'es sur le terrain, ce gars-là, il pose le regard sur toi, il te coupe les pattes. Ramos, c'est impossible. Quand il prend la place du gars, le ballon va lui brûler les pieds. Bon. C'est violent psychologiquement.
Vous pouvez me dire,
ils ont qu'à être forts, ils sont trop faibles, ils sont ceci, ils sont cela.
Non, vous moi, je nuance ça le jeu.
Mais moi, mon constat, et c'est pas de nouveau, je le dis depuis pas mal de temps, cette équipe du Portugal a des joueurs extraordinaire, vraiment, je à tous les postes sur le banc, c'est magnifique, mais j'ai de gros doutes qu'ils aillent au bout alors qu'ils ont tout pour aller au bout.
Merci Vincent, 32-16.
Ma théorie.
Dans un instant, un mot de la Turquie et ensuite la Belgique, futur adversaire de la France. On va analyser tout ça jusqu'à minuit et puis l'équipe de France, pas mal d'infos ce soir. Les problèmes commencent à arriver en équipe de France concernant les remplaçants,
les
entraînements, etc. Jusqu'à minuit, on est là, jusqu'à minuit et demi, on est là dans l'after pour analyser tout ça. Le 32-16 est ouvert. À tout de suite.
RMC, l'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
23h36, Daniel Riolo et là, Walid Acherchour également. Info supplémentaire sur Martigues, parce que là, sur Direct Studio, on
voit. C'est vrai ou pas? Alors, moi, j'ai vu BFM Marseille.
Alors, en fait, j'ai par exemple Anthony qui m'écrit et qui me dit effectivement Martigues, Vélodrome jusqu'en décembre.
D'accord.
Et avec uniquement la tribune Ganet ouverte.
Ok.
Mais pour la pelouse, c'est un sacré truc. Hein.
Ouais. Tribune Ganet, ça va faire un peu creux, je trouve. Vélodrome, on a l'habitude de Vélodrome en folie, plein et tout.
Bah, sinon, Martigues, ils ont personne. Donc,
Oui.
Je sais même pas si on la remplir.
Moi, j'avais assisté à un match de Coupe de France Martigues PSG au célèbre stade Francis-Turquan.
C'est vieux,
il y a quelques années, ouais.
Quoi, avec Ben Arbia à Martigues?
Ça doit, non, il était plus là. Non, ça doit faire début des années 2000.
Oui, d'accord, ok, ouais.
C'était l'équipe.
Je crois qu'il y a Jérôme encore.
Ouais, pas possible.
Jérôme joue au PSG.
Possible.
Un match un peu grêlon, mais je crois que le PSG a dû s'en sortir.
Ah, c'est pas un match grêlon, c'est un match pavé. Parce qu'à la fin, il y avait des supporters de Martigues qui avaient balancé des pavés dans le quart des supporters parisiens. Bon, voilà. Effé est là, notre ami d'ActuFoot qui suit le foot turc de près. Salut Effé.
Bonsoir à tous, comment allez-vous?
Ça va et toi?
Super Effé.
Il est venu avec sa baguette.
Super, magique. Super, les émotions là qui redescendent, c'est ouf. Sacré match.
Bon, ça va mieux non? Parce qu'après le deuxième match, les supporters turcs étaient plutôt en colère.
Alors, ouais, en effet, l'effectif a été d'ailleurs remanié par rapport à ça.
Heureusement.
Il y a eu de bonnes surprises comme des mauvaises. Je pense que Hakan, par exemple, n'a pas été vraiment bien placé en tant que 10, alors que le retour d'Ismaël Duxek, ouais, j'ai trouvé Hakan assez moyen sur le match. Mais gros match de Baruch Harper en pointe, de FRD en latéral, et pareil, Ismaël Duxek qui revient d'une grosse blessure, vraiment, ils m'ont plutôt plu.
Ils m'ont fait un petit peu peur hein, partout, hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais à 11 contre 10, t'as la République tchèque qui peut... qui peut, parce qu'avec un but de la République tchèque, t'étais éliminé, hein.
Exactement, ouais, une défaite, surtout que la Géorgie menait 2-0, ouais. Donc ouais, n'importe quel but tchèque, ouais, pouvait nous éliminer. La défense, bah on les connaissait, hein, c'est la lacune défensive, on a pas réussi à les corriger, ça sera pas corrigeable d'ici la fin de l'Euro. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'est fait peur. Maintenant, le principal, c'est la qualif, donc on est content.
J'ai retrouvé Gento Zunja.
Et le fait d'être en huitième, c'est déjà une performance. Comment ça va être analysé là-bas, comme une sorte d'aboutissement, ou on se dit qu'il y a matière à viser plus haut?
Alors après les deux désillusions en 2016 et en 2021, pour nous c'est quand même une bonne perf d'arriver en huitième. Maintenant, j'imagine que au vu de notre parcours qui n'est pas le plus difficile, enfin par rapport évidemment à l'adversité des autres carrés, je me dis que
ouais,
le peuple turc
ouverte,
attend
ouais.
un peu plus. Ouais, exactement. Bah on se dit évidemment l'Autriche ça joue, hein, ça joue très très bien. C'est on l'a vu contre la France notamment, c'est assez solide. Donc je dirais pas que c'est un tirage facile, mais c'est déjà mieux que de tomber justement contre la France.
Ça reste un tirage abordable. De toute façon,
abordable.
Enfin, attendez, l'Autriche favori.
Excusez-moi, les gars. L'Autriche favori, bien évidemment.
Oui.
Mais à la 90e minute, en fait, c'était soit l'Espagne, soit l'Autriche. Tu prends qui, toi?
L'Autriche.
Ah, d'accord, ok. Donc,
si le choix est là, oui.
Donc, derrière l'Autriche, si tu bats l'Autriche, c'est quand même la Roumanie ou les Pays-Bas.
Ouais,
donc, exactement. Tu te dis, par rapport à tous les quarts de tableau, je te dis pas que la Turquie va aller en demi et va passer l'Autriche.
Tu peux aller faire du monde 2002.
Si on doit analyser.
C'est surtout là que tu dis que la France, quand même.
Ah oui, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout, surtout que si on regarde bien sur les dernières.
La Turquie que j'ai vue ce soir, c'était pas un boulevard pour la France.
Oui.
Bon, en tout cas, il y avait.
C'est vu la France qu'on a vu hier, il n'y a plus de boulevard.
C'est une équipe imparfaite.
C'était le périph', mais à 18h.
Mais quand on connaît l'histoire de la Turquie.
Il y a 2-3 emmerdements sur la route.
Dans les grosses compétitions, de toute façon, c'est soit demi, soit c'est une catastrophe à chaque fois. Donc là t'es en 8e, avec un quart de tableau assez intéressant. Pourquoi pas? En plus, avec le gros contingent que tu as en Allemagne de supporters, où en fait, t'es à domicile, quoi. Il peut se passer un truc, hein.
C'est vrai, la diaspora elle est présente, mais encore une fois, pour moi, faut pas non plus partir très optimiste. Enfin, ça reste l'Autriche, quoi. Ils ont fait quand même.
Ah non, l'Autriche est favori de ce huitième là. Et Daniel le disait, moi je vois l'Autriche aller en demi. Donc, mais tu peux pas partir battu contre l'Autriche. Tu dois jouer ton match à fond.
Oui, évidemment, il faut montrer du caractère. Après, là, on a beaucoup de suspensions. L'arbitre, je pense, vous avez vu le match, il a sorti beaucoup, beaucoup de cartons. Donc, je sais pas comment est-ce que Montella va remanier encore une fois l'effectif, mais ça va être intéressant à voir.
Il avait été beaucoup critiqué durant la phase de poule, après le deuxième match, Montella.
Ouais, en fait, il y avait une petite polémique en Turquie par rapport à Arda Güler, justement, à l'entraînement.
Ouais,
il
gestion,
avait été
ouais.
aperçu à l'écart, tout ça. Donc, en Turquie, on aime bien créer des polémiques un petit peu pour rien. Et je trouve que c'est un peu bête, on se tire une balle dans le pied bêtement. Alors que, franchement, pour le coup, Arda Güler est derrière Montella et c'était juste une petite blessure, donc il n'y avait rien de grave. Mais il avait été pas mal critiqué ouais, après le match contre le Portugal parce que l'effectif qu'il avait sorti, c'était pas vraiment ce qui était attendu. Mais là, en l'occurrence, il s'est bien rattrapé contre la Tchéquie. Donc,
il s'est sabordé. Il s'est sabordé sur le deuxième match. Bon, là, ça lui donne raison parce que il y en a qui diront qu'il a préservé pas mal de joueurs pour jouer cette finale contre la République Tchèque. Mais c'est vrai que quand il te dit en début de rencontre, avant la rencontre, Güler, on prend aucun risque pour le troisième match et qu'il le fait rentrer à la 110e à 3-0, tu comprends pas trop la logique, hein.
Oui, évidemment. Après, là, en l'occurrence, je trouve qu'il a fait un match assez moyen à Arda, donc il a bien fait de sortir lors de jeu.
Il a
pas été fameux, donc je pense qu'il fait bien de le préserver pour l'Autriche.
Bah, il faut, à force de le préserver, si le gars est pas bon, ça sert à rien de le préserver. Hein.
Bon, bah, il fait merci, je renvoie à Actu Foot, hein, où tu te coupes du foot turc pour suivre l'actu sur place. Salut Effet, à bientôt.
Salut Effet.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Bonne soirée. Avant la Belgique, un mot de la Roumanie, parce que c'est une équipe surprise.
Il était chez lui, Effé. Il était à son logis.
Ça fait 5 minutes qu'il a préparé ça.
Ouais. Il entend une autre ou pas?
J'ai tenté la baguette tout à l'heure, vous n'avez pas marché.
Si, j'ai vu, on a entendu la baguette.
Je fais ce que je peux, hein, on se débrouille. Ouais.
Romain est avec nous.
Je pense qu'il a des papillons.
Salut Romain.
Salut Gilbert. Salut Daniel, salut Walid.
Romain, toi tu suis la Roumanie?
Ouais, à fond.
Et là, c'est le retour de la Roumanie, premier groupe. C'est un truc de fou, quoi.
C'est un truc de dingue.
C'était pas le groupe en bois de 7 euros?
Un groupe, pour moi, c'est le groupe C, c'est le groupe d'hier, là. Danemark, Angleterre, Slovénie.
Oui, ouais. D'accord, mais pas sur le papier. Oui, oui. Là, celui-là, c'est vraiment le groupe où tout le monde était à 3 points avant la dernière journée. Ah, ça, t'as oui. eu que des matchs nuls. Bah,
déjà, les gars, si le groupe est en bois, c'est surtout à cause de la Belgique, hein, parce que c'est eux c'est qu'on
vrai.
Attend.
C'est vrai, c'est la Belgique qu'on attendait en tête. Et là, t'as Roumanie en tête du groupe.
Et en fait, la Roumanie, c'est un pays. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'est trop bien l'Euro 24 pour ces petits pays-là, quoi. Mmh. En France, on ne sait pas ce que c'est, on ne réalise pas, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Moi, ça fait 25 ans que j'en chie à regarder cette équipe, même pas passer les groupes de qualifs, à finir 3e, 4e, 5e derrière des pays de merde. Et là, ça y est, on arrive à passer, à être qualifié en phase de poule, et on finit premier, on est qualifié. Mais j'ai regardé le match tout à l'heure avec mon gamin, mais j'étais pétrifié, en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller le bébé. Mais les gars, mais c'est complètement ouf de passer, quoi. Et là, on va jouer les Pays-Bas en 8e, mais on peut tuer les Pays-Bas. Hein. Vu la qualité de jeu des Hollandais, il y a carrément moyen. Et c'est trop beau pour des pays.
Non, mais
comme
moi,
ça,
je suis convaincu maintenant. Quand j'entends les belles histoires comme ça, moi, ça, quand j'ai vu la Géorgie ce soir, vous faites premier. Ok.
Oui, mais attends,
problème,
en Géorgie, t'as quand même un mec, Gvaratskhelia.
Il y a un joueur en Europe qui vaut
en Roumanie, il y a pas
100 millions.
Il y a pas un Gvaratskhelia en Roumanie.
Miko Tadze, je pense, est un joueur qui peut jouer dans n'importe quel grand club. Mais en Roumanie, il y a pas.
Vous allez entendre parler normalement dans les années à venir. Dragoucine derrière.
T'as Dragoucine qui joue à Tottenham, ouais.
Voilà, Denisman qui est à Parme, qui est franchement pas mal. Mais
tiens, cadeau de l'after. Cadeau de l'after, 20 secondes de Gvaratskhelia en Géorgie en direct. On y va.
Moi, je vais faire la trad.
Ah ouais, non, là il y a la trad, c'est pas drôle.
Gvaratskhelia, c'est totalement Romain Tanucci.
Dans 20 secondes, il revient. Romain, t'es d'origine roumaine ?
Ouais, absolument. Je suis né là-bas, comme je l'ai raconté dans un super bouquin que j'ai écrit il y a 2 ans et où je t'ai interviewé, Gilbert.
Ah, ça y est ! Et t'es d'où ?
De Bucarest.
Très bien.
Franchement, c'était obligé. Là, il fallait parler de la Roumanie. Là. C'est trop beau, c'est notre jour de gloire, hein, les gars.
Tiens, Gvaratskhelia en géorgien.
Comment vous êtes senti dans ce match? C'est une énorme performance. J'imagine que c'est un des plus grands moments dans votre carrière.
Tu parles le géorgien?
Pourtant, les Portugais étaient favoris hein, avant le début de cette rencontre. Écoutez, oui, évidemment, les Portugais étaient favoris. Mais au début de la rencontre, Cristiano Ronaldo est venu me voir et je lui ai fait: oh, caray, on va vous battre ce soir.
Ah, ouais,
il m'a pas cru. Pourtant, vous avez vu comme moi, on a joué bas en contre et on les a bien fourrés. Hein.
Voilà. Merci, Daniel, pour cette traduction vraiment très fidèle. Romain,
ça colle en termes de timing en tout cas.
Ouais, c'est
le timing. C'est vachement bien.
On attend la conf des Roumains maintenant.
Ouais. Donc, Romain, je parle mieux que Géorgien.
Ah ben, Romain, c'est proche de l'italien.
Je suis spécialiste en pays de l'Est.
Romain, c'est langue latine. Très belle langue, le roumain.
Ouais, je maîtrise aussi.
Exactement. Non, mais moi, j'ai bien flippé que ce soit France-Roumanie en 8e en tout cas.
Ah non, moi, j'aurais adoré.
Pas moi. Ça aurait été terrible. J'aurais passé 3 jours à.
Mais ce qui est fou dans cette poule, c'est
que j'ai vu l'équipe de France. Donc,
on l'a pas encore dit. On l'a pas encore dit, mais bon, c'est les 4 équipes à 4 points. Donc, L'Ukraine à 4 points termine dernière, alors que le Danemark à 3 points est deuxième de la poule C.
Mais l'Ukraine se fait sortir sur le premier.
Le 3-0, ça fait très très mal, ouais.
Romain, moi j'ai un grand-père qui est né à côté de Timișoara. Est-ce que je peux être assimilé?
Absolument, on prend tout. Hein. Ils prennent les Yougos, les Hongrois, les Moldaves, c'est bon. Hein.
C'est la grande famille roumaine. Très bien.
Exactement.
C'est plutôt juste un joueur là, que t'aimes bien, qui à ton avis peut devenir un gars qui peut jouer dans le chapeau 1 en Europe.
Ah, chapeau 1, et un bon chapeau, un haut de chapeau 2, Denisman dans 5 ans. Denisman, il joue à Parme, il monte là.
Ah, le petit ailier,
hein. Ouais, le petit ailier droit.
Et le fils du Maradona des Carpates, alors il est comment?
Le problème, c'est qu'ils sont en concurrence les deux. Il est pas mal le fils Hadji, mais il manque un peu de constance, quoi.
Il sera pas au niveau du Daron. Après,
c'est plus le Rotten des Carpates, le fils.
C'est pas pareil. Ouais, c'est plus le Olivier Quint des Carpates.
C'est plus le Walter Birsa des Carpates. Ouais.
Merci Romain. On se rappelle pour les 8e,
les gars. Ouais, carrément.
Salut Romain. Bonne soirée. Dans un instant, la Belgique et ensuite l'équipe de France. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
23h50, Daniel Riolo est là, Walid Acharchour est là, les gars, on accueille Guillaume Gauthier, journaliste belge qui est responsable des pages foot au VIF, journal de référence en Belgique. Ah. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Salut Guillaume.
Bon, on va pas être potes pendant quelques jours là, entre Français et Belges.
C'est une vieille histoire.
On a l'habitude.
On a l'habitude. Bah, vous avez une revanche à prendre les gars.
C'est grosse affiche. Hein.
Est-ce que c'est le bon moment pour la prendre? Est-ce que les joueurs belges en ont envie? Quand je les vois sur le terrain, je me demande leur degré d'envie à jouer au foot ensemble. Je ne sais pas. J'ai un doute.
Guillaume, tu as une idée?
Je pense que il y a beaucoup de pression en fait dans cette équipe. Je crois qu'ils se sont mis beaucoup de pression tout seuls parce qu'on a pas mal de leaders de la nouvelle génération, on va dire, qui ont affirmé haut et fort qu'ils allaient se hisser sans trop de problèmes à la hauteur de ce qui avait été fait par la génération précédente. Et je pense que ils ont peut-être pas mesuré.
Mais qui sont les joueurs dont tu parles? À quoi tu fais allusion?
Je pense on a eu beaucoup de discours de joueurs, des Amadou Onana. On avait Leandro Trossard qui, à la dernière Coupe du Monde, s'était plein plus ou moins ouvertement de ne pas recevoir sa chance. Alors
il n'a pas l'air facile, entre lui et son daron, c'était des c'est compliqué.
Ouais, donc c'est. Enfin, ces joueurs-là, je pense qu'ils sont mis une forme de pression. Je crois qu'il y a un sélectionneur qui, malgré tout, un jeune coach et qui découvre un peu cette situation-là d'avoir des matchs avec tout un pays derrière à élimination directe, par exemple. Les joueurs et le sélectionneur ont été très surpris que tout le public belge a sifflé à la fin du match. Parce que eux, ils ont dit, on s'est qualifié.
Ouais. On est accueillis par des sifflets après le match.
Oui, c'est ça. En fait, les joueurs allaient se diriger vers les supporters pour saluer le public. Mmh. Et le public a sifflé parce qu'ils n'étaient pas contents de la prestation et notamment du fait qu'on a un peu joué la montre pour sauver le 0-0 contre l'Ukraine, en gros, en fin de match. Et donc, les supporters ont sifflé. Et donc De Bruyne a dit à toute l'équipe de faire demi-tour et
j'ai
de pas aller
saluer. J'ai pas compris la réaction de De Bruyne, moi.
Je pense que lui, dans son idée, c'est ouais, on est qualifié. C'est quoi leur problème, quoi?
Ils ont rien à dire. Il n'y a pas un problème physique avec De Bruyne. Rappelez-vous de l'action au Carrasco par ballon au pied. Ils sont 3 contre 2. Ouais. T'as Lukaku à gauche, De Bruyne à droite. En fait,
non,
De Bruyne.
Il n'y a pas Lukaku.
Non, il y avait
Lukaku c'était... avec sa caravane.
Ah, peut-être.
Ils étaient deux.
Mais De Bruyne aussi avec sa caravane. Parce que Carrasco avec le ballon, il va plus vite que De Bruyne. Et il attend que l'autre arrive pour lui donner. Bon, après, et il arrive jamais, en fait, De Bruyne.
Il lui donne mal Carrasco.
Mais moi, non, je pense mais le problème, c'est De Bruyne dans cette course.
Pour le coup.
Moi, j'ai l'impression qu'il est cramé.
Oui, sa saison n'a pas été dingo.
Hein.
C'est plus le même joueur, mais je trouve qu'en termes d'envie, parce que Daniel parlait d'envie, je trouve qu'avec Onana, ça a été l'un des meilleurs, enfin, les moins mauvais sur la rencontre. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé avec Guillaume la semaine dernière dans l'émission avec Pierre Dorian, là. J'avais été emballé par ce qu'avait fait la Belgique contre la Roumanie, où j'avais trouvé que c'était plutôt intéressant avec les changements de Tedesco. Autant aujourd'hui, mais c'est très très décevant, surtout qu'on a fait le bracket final avec Daniel et Gilbert tout à l'heure. Il y avait une opportunité d'aller se mettre dans la bonne partie de tableau pour aller faire un très très bon tournoi pour cette nouvelle génération et pour faire pour essayer de
jouer le nul à la fin contre l'Ukraine.
Et tu joues le nul et la première mi-temps elle est très très mauvaise et tu te crées pas beaucoup de situations par rapport à ce que tu as fait contre la Roumanie et t'es pas à la merci d'une élimination parce que il y a un moment donné il y a un rush ukrainien qui va à pleine vitesse dans la surface de réparation. T'as un sauvetage d'un défenseur belge, tu te fais peur jusqu'à la dernière minute. Et ça quand même c'est pas normal quand tu t'appelles la Belgique. Ils se sont dit bon, deuxième place finalement c'est pas si mal alors que tu savais très très bien que en début de rencontre avec une victoire, t'avais de grandes chances de terminer premier et de jouer un huitième de finale voire un quart de finale plus abordable. Là tu te retrouves, tu vas devoir jouer la France. Si tu passes la France déjà, ça va pas être une mince affaire pour te retrouver contre le Portugal, l'Allemagne ou l'Espagne. Attends, mais c'est sincèrement, moi je comprends les supporters belges à la fin du match. Hein.
Gauthier,
Guillaume, tu veux rajouter un truc?
Guillaume, pardon.
Oui, enfin moi je pense vraiment qu'il y a un problème dans cette équipe qui est que l'essentiel des qualifications s'est joué sur le fait que Lukaku marquait très facilement. Et là, Lukaku ne marque plus, donc l'équipe ne marque plus. Mmh. Parce que le jeu est quand même majoritairement orienté autour de lui, et on sent qu'il est un peu en crise de confiance. Le ballon que lui met De Bruyne après 5 minutes en début de match, Lukaku en confiance, il marque toujours, il frappe toute molle.
Il doit la mettre.
Ouais, il doit toujours marquer. Et on sent déjà qu'à ce moment-là... Ouais, on sent qu'en fait, je pense qu'à un moment, ils se disent, ça recommence, on n'arrive pas à marquer, Et donc, il faut au moins qu'on encaisse
le
pas.
Et les de Lukaku, Tedesco, qui est un joueur que j'ai adoré pendant des années et je trouvais qu'il était sous-coté. On le qualifiait trop d'attaquant un peu lourdeau, alors que je n'étais pas d'accord et qu'il avait une belle technique. C'est que s'il n'est pas en forme, justement, il devient pâteau. Le problème, c'est qu'un Lukaku en forme, ça a longtemps été un des meilleurs neufs en Europe, pas en forme, pas en jambes et plus tellement au top niveau maintenant, il se transforme en Darius Vassell, quoi, tu vois, un truc dans ce genre-là. Et c'est un problème.
Il travaille toujours,
je suis pas sûr que la Belgique est mieux à mettre devant.
Il est pas inspiré, mais par exemple, un Loïs Openda, il peut rentrer un peu plus tôt quand même aujourd'hui, ou quand tu vois les différences qu'il a fait sur le premier match contre la Slovaquie notamment, depuis c'est quoi, c'est 3 minutes sur les deux matchs. Moi je suis désolé.
Ouais, tout à fait,
on peut pas l'associer.
Ouais, dans la hiérarchie, c'est...
On peut pas les associer les deux, on peut pas mettre De Bruyne un peu sur le côté sur la fin de match. L'Ukraine, c'est pas, on parle pas du Brésil 70 quoi. Je sais pas moi même dans les intentions, toujours les mêmes changements là, Carrasco, c'est terminé Carrasco. Faut passer à autre chose, quoi. Je sais pas, moi.
Carrasco, il fait partie des plus dangereux quand même.
Non.
Tiens, Guillaume, écoute, désolé. Didier Deschamps, parce que il a parlé des armes offensives belges et des joueurs qui font peur, mais j'ai l'impression qu'il était fatigué lui aussi. On écoute.
Et De Bruyne, Lukaku, Djoku, Trossard.
Voilà, donc lui, il a vu De Bruyne et Djoku.
Djoku, c'est le Djoku le belge.
Je crois que tout le monde est fatigué, en fait. Ouais, hein.
Jérémy Djoku.
Ouais, De Bruyne. Bon.
Après, tu fais ce huitième de finale contre la France. Là, t'as rien à perdre. Tu peux avoir l'esprit revanchard. Moi, les gros doutes que j'ai, c'est qu'au-delà du collectif, c'est que défensivement derrière... Quand tu vois Théâtre, Woodfess, avec ce qu'on a devant nous, normalement ça doit pas faire un pli, mais si t'as un Lukaku qui redevient Lukaku, si au milieu de terrain Tillmans et Onana font un gros match, sur un scénario où moi je pense que si j'étais à la place des Belges, je bloquerais les espaces, je jouerais beaucoup plus resserré pour jouer sur la vitesse d'un Doku, d'un Bagayoko ou autre, tu peux sur un scénario de match sortir la France, hein, c'est pas interdit, hein. Même si j'ai du mal à y croire, mais c'est pas interdit.
C'est un scénario de match, comme tu dis.
Oui. Quoi, 50-50 ?
Non, je vois un 70-30.
Non, c'est pas 50-50.
70-30. 65-35 pour les Bleus.
Oui, voilà. Oui.
Parce que les Bleus ont pas du tout été rassurants.
Ah oui, ils ont pas été rassurants.
Quoi, le problème, c'est que les Belges n'ont pas déterminés, quoi. C'est un peu mollasson.
Ah là, s'ils sont pas déterminés pour la 8e de finale contre la France, faut arrêter le football.
Vas-y, Guillaume.
Ouais, comme le dit Walid, il y a un scénario de match qui peut convenir à la Belgique. Le problème, c'est que la Belgique a du mal même à défendre en bloc bas de manière organisée parce que Onana, il a beaucoup d'énergie, donc c'est un milieu de terrain qui défend bien quand il y a de l'espace à couvrir. Mais quand il faut jouer sur du positionnement, c'est beaucoup plus compliqué. Ça laisse souvent des brèches. Et par exemple, la Belgique a joué un amical contre l'Angleterre à Wembley en mars et c'était plus ou moins l'équipe type de la Belgique, pas vraiment l'équipe type de l'Angleterre. Et en bloc bas, la Belgique a énormément souffert en deuxième période parce que ça allait trop vite dans les espaces. Il y a un scénario où ça peut le faire, mais je pense, De Bruyne, il l'avait dit avant le tournoi et je pense que c'est un bon résumé. La Belgique est pas un des favoris, mais c'est une équipe contre qui personne n'a vraiment envie de tomber. Et je crois que tomber sur la Belgique en huitième de finale, c'est pas un bon tirage. Mais sur ce qu'elle a montré depuis le début du tournoi, c'est pas aussi effrayant que ce qu'on aurait pu imaginer avant.
Le gardien, il fait un bon tournoi, le gardien, je trouve.
Ouais, il fait un très bon tournoi, ouais.
Ouais. Castells, là.
Pourtant, Matzels, c'est au-dessus.
Ouais, ce que j'allais dire. Non. Ça se fait que c'est Matzels qui joue Gilbert.
Moi, je trouve bien, moi.
Guillaume, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Guillaume.
Et un de ces quatre, hein, et donc on se retrouve
rapidement.
Un de ces quatre.
On va se faire des amis quand il arrive.
Peut-être. Voilà. T'es obligé de l'appeler pour lui demander.
Je renvoie au journal Le Vif de Guillaume. Salut Guillaume, merci beaucoup.
Oh, les Bleus, ça va gagner.
Tiens, salut, à bientôt.
Écoutez l'anglais de Willy Sagnol, il est en conférence de presse.
Against Turkey, and I feel very proud to be their manager.
Voilà. Il est très fier d'être ici.
Hello, congratulations. My name is Sebastian Stebri from Mediano in Denmark. Can you please say something about the very entertaining football that your team plays?
Voilà. Pour une question sur le football très enthousiasmant. You know,
when you're the small team of the competition.
Pas besoin de traduire, c'est facile.
I mean, in brackets.
Petite équipe là.
When you're the small team, you know you have nothing to lose, and the only thing you have
we said before the competition is whatever happened, competition. We don't want any regrets after the competition. The regret of maybe not have played our football or maybe not to have enjoyed the competition as much as we should have done. So, you know, it's you have no weight on your shoulder. And of course, you know, when it's difficult, you know, when you're France, when you're England, when you're Spain, when you're Portugal, because you are under pressure, because people expect you to win. And I understand that's very difficult. But for us, we don't have all these things. The only responsibility we had at the beginning of the competition was to make the Georgian nation proud of their players. And I think we've done it the best way.
Voilà, bravo Willy, bel bravo. Anglais. Mm. Je pense que là, il vient de s'offrir 10 ans de belle carrière de sélectionneur, que ce soit en Géorgie ou ailleurs, avec une petite aventure comme celle-là. Bravo Willy. Dans un instant, l'équipe de France, les gars, et puis les droits télé, Vincent Labrune devant le Sénat, le reste de l'actu du jour également au programme de l'After, encore pendant une petite demi-heure, et ensuite, ce sera la libre antenne.
RMC, jusqu'à minuit 30,
l'After Foot Intégral Euro.
RMC.
Moi, j'aime pas quand on tire sur l'ambulance, quoi. Il y a des gens qui sont malhonnêtes. Moi, j'ai ma conscience tranquille, hein. Comme on dit en Belgique, la caravane à bois, les chiens vont passer quand même.
On n'a pas des certitudes, on n'a pas une équipe sur laquelle on peut se dire, on sait pas si elle aura ses règles au mois de juin.
Ce soir, j'ai vu des améliorations dans ce secteur de jeu-là.
Je trouve pas d'excuses parce que je suis pas un garçon comme ça, je suis très autocritique envers moi-même.
Bien, vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est bien. J'ai failli partir aussi.
Jusqu'à minuit 30, l'After Foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Une petite demi-heure d'after ensemble avec Pauline Acherchour, avec Daniel Riello avant la libre antenne qui arrive ensuite. L'actu des Bleus. Et là, les infos que nous envoie Fabrice Hawkins ce soir sont quand même pas extraordinaires. Il commence à y avoir quelques petits soucis qu'on va vous expliquer.
Il dit quoi, le faucon?
Il explique déjà que il y a pas mal de remplaçants qui ne jouent pas, qui commencent à être quand même assez contrariés. Alors c'est sûr que quand tu avais une équipe de France à 22, il y avait moins de coiffeurs à gérer, forcément. Là, quand t'es
quand l'ambiance est bonne et quand tu t'appelles Deschamps et que t'as toujours géré ça de main de maître et que la constitution du groupe c'est principalement ton atout, c'est un peu bizarre ce que tu commences à raconter.
Il y a des joueurs qui sont des titulaires au Real, vainqueurs de Ligue des Champions, titulaires à l'Inter, à Liverpool, au PSG, qui jouent pas ou peu.
Mm-hmm.
Voilà, hein. Bon, évidemment, vous avez les noms, hein. Ceux qui n'ont pas joué de minute, Pavard, Konaté, Ferland Mendy, Klaus, Zaïre Emery, plus bon, les deux gardiens, évidemment, Areola et Samba. En fait, Deschamps fait un truc qu'il avait déjà fait lors des compétitions précédentes, c'est que il donne ses équipes au groupe qui joue, aux joueurs qui jouent. Donc, il ne fait pas forcément venir ceux qui ne jouent pas dans la réunion qui donne l'équipe.
Il concerne que les titulaires.
Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est assez excluant quand même pour les mecs. Ouais. Bon, c'est une méthode assez bizarre. Moi, j'ai mal à comprendre ça. Donc, pas mal de joueurs, bon, parmi la liste que j'ai citée là, se sentent tout à fait à l'écart. S'ajoute à ça des critiques, notamment sur le contenu des séances, pas suffisamment consistantes aux yeux d'une partie de l'effectif. Et là, on ne parle pas forcément que des remplaçants. Ça, d'accord. C'est.
Mais consistante sur l'aspect physique ou l'aspect jeu? Parce que sur l'aspect jeu, ils doivent pas être, ils sont habitués, non?
Mais ça, c'est assez paradoxal parce que les sélectionneurs et Deschamps en premier sont souvent les premiers à se plaindre de pas avoir assez de temps pour bosser, faire la tactique et tout. Oui, mais là, en gros, t'as l'impression qu'en fait, les mecs se disent, mais c'est quoi ces entraînements, quoi?
C'est vrai qu'avec Deschamps, on a le fameux poncif en sélection, on peut pas jouer au foot.
Voilà, et puis il y a les déclarations de Youssouf Fofana quand même, qui dit c'est compliqué. Moi, je fais partie des joueurs qui ont besoin de minutes, de minutes, de minutes. Mais bon, il y a beaucoup de joueurs, on est 25. Bon, voilà, faut faire avec ce qu'on a.
Fofana sur la question, parce que ça a fait un peu polémique aujourd'hui. C'est une question d'un journaliste qui demande, qui dit en gros, les remplaçants n'impactent pas assez quand ils rentrent. Et donc il le cible lui, et lui il répond en disant quand je rentre à la 87e ou en tout cas à la 81e, je vais pas courir comme un damné si encore une fois mon rôle c'est pas ça et si on le fait pas en équipe. C'est plus dans ce sens-là qu'il voulait l'expliquer.
Ben voilà, voilà la situation aujourd'hui.
Donc ça traduirait une ambiance pas aussi bonne que d'habitude. Ah oui. Et l'ambiance et le groupe, la vie du groupe et le caractère de l'équipe, ce qui est ce qui a toujours fait la force de cette équipe de France. Mmh. En tout cas de la force de Deschamps, plus que le jeu. C'est d'abord le caractère et la volonté de ce groupe tous ensemble de défendre ensemble, pas d'attaquer ensemble parce qu'ils attaquent peu, mais en gros de résister à n'importe quel adversaire et surtout de faire peur avec un mental hors norme. Et là, on découvrirait donc qu'il commence à y avoir des failles dans l'édifice monstrueux bâti par Deschamps depuis 12 ans.
Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 4-5 jours, on avait des échos différents en nous disant que le groupe vivait super bien, c'était un groupe de potes, la même génération, etc.
Mais Walid,
qui kiffait se retrouver en équipe de France.
Tu sais, moi, j'ai jamais cru, c'est 12 ans, c'est long. 12 ans d'un discours, 12 ans d'une façon de faire, 12 ans de comment dire, de motivation, de discussion dans le vestiaire. Moi, je ne sais pas si un entraîneur peut durer si longtemps.
Moi non plus.
Même s'il a d'énormes qualités, au bout d'un moment, le discours, c'est le même. Le renouvellement, il est compliqué. C'est l'usure du pouvoir, quoi. C'est comme pour un président. C'est quand tu es à ce point au milieu d'un contexte populaire comme le football, avec les médias, les joueurs. Moi, je trouve que être resté 12 ans, c'est déjà énormissime. C'est déjà très important.
En tout cas, même dans la communication de Deschamps.
Peut-être dire que c'est peut-être déjà trop.
Moi, j'ai toujours pensé que c'était trop, ouais.
Et puis même dans la communication de Deschamps, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de frustration envers les
joueurs. Vous imaginez si Deschamps avait dit champion du monde 2018, voilà, maintenant j'ai fait mon taf, je pars comme un seigneur. Bon, ah oui. Il n'a pas fait.
Non, mais c'est ce qu'on réclamait après la Coupe du Monde. Et non seulement il y a 7 euros, et on ne sait pas jusqu'où la France va aller, mais de toute façon, il a d'ores et déjà dit qu'il a envie d'aller en 2026.
Il a gagné un crédit. Ah,
il a son contrat. Hein.
Il a gagné un gros crédit avec ses...
D'ailleurs, le coach belge aussi a ton contrat jusqu'en 2026.
Oui.
Bon, mais là, bon, maintenant, ce qui se passe autour...
Puis surtout, c'est le président de la Fédé.
Il y a quand même un débat qui ressurgit sur les réseaux et qui a alimenté la chronique toute l'année au Paris Saint-Germain, c'est quoi faire de la vedette de ton équipe. On a eu le débat toute l'année, on a encore le débat en équipe de France. Donc, encore une fois, je vais essayer de voir si je peux faire un stage accéléré de chinois pour l'expliquer en chinois, parce que visiblement, on n'a pas réellement envie de comprendre ce que je dis sur le sujet. Je l'ai dit pour le PSG, pour Luis Enrique, et c'est la même pour Deschamps. Il n'y a pas 36 000 solutions. Le positionnement de Mbappé est un vrai problème. Il n'est pas bon dans cette position de neuf. On me répond, Luis Enrique et Deschamps l'ont fait, t'es pas plus intelligent qu'eux. J'ai jamais dit que j'étais plus intelligent qu'eux. Je constate que ça n'a pas marché au PSG, ça ne marche pas en équipe de France. On est d'accord jusque-là ?
Ouais.
Ça ne marche pas. Donc, à partir du moment où tu fais ce constat, t'essayes de te mettre à la place du coach, parce que c'est bien beau de parler et tout, mais il faut essayer de se mettre à la place. Il n'y a que deux choses à faire. Pour moi, il y a deux choses à faire. Tu l'enlèves de l'équipe, parce que tu constates qu'il n'est pas assez bon.
Ça, c'est pas possible. C'est ton meilleur joueur.
Ah, ou alors tu le remets à sa vraie place, puis c'est tout.
Deuxième solution, tu retentes à sa vraie place.
Ils disent que c'est pas possible, Daniel.
Bah donc, pourquoi
En fait, il y a un problème, c'est que.
Donc.
Toi, ton constat. Donc,
non, mais il y a que deux solutions.
Les gens sont pas en désaccord avec ton constat. C'est qu'en fait, tu ne veux pas comprendre la logique de ces coachs-là qui amènent à Mbappé au poste de numéro 9.
Donc toi non plus, tu comprends pas.
C'est-à-dire.
Mais je suis
non, je dis que dire, si t'as deux coachs,
ne refais pas le raisonnement.
Non, mais si t'as deux coachs de renom, si t'as deux coachs de
mais
renom,
mais on le comprend le raisonnement. Arrêtez de répéter mille fois la même chose. On n'est pas aveugle.
Non, mais c'est bien
pas plus con que vous.
C'est bien que à gauche, donc Mbappé ne peut pas jouer actuellement. Mais encore une fois,
non. La question c'est qu'est-ce que tu fais.
Mais c'est ce qu'ils disent. C'est fou quand même.
Arrêtez de brasser du vent.
Deschamps qui le dit.
Qu'est-ce que tu fais.
D'accord.
Qu'est-ce que tu fais.
Qu'est-ce que je fais moi encore une fois.
Donne une réponse.
Mais eux ils te disent que non.
Mais qu'est-ce que tu fais toi.
Moi je le mets à gauche. Mais par contre.
Bon alors stop.
Mais par contre je mets.
Il y a
pas.
Que deux non, solutions.
Daniel,
tu le sors.
Daniel.
Tu prends tes couilles, tu le sors. Non, ou tu le remets à gauche.
Non,
en neuf ça ne marche
t'as,
pas.
T'as pas à le sortir. Toi en fait le problème c'est que tu mets une main sur tes yeux en faisant
mais
fi pas, du contexte.
Mais vous êtes
fou.
Non fait.
Mais si.
Vous êtes, tu crois que je suis aveugle. Je vois pas qu'il est pas bon.
Non mais
je n'arrête pas de le dire.
Surtout qu'il ne veut pas courir, qu'il ne veut pas défendre.
Mais ça, c'est un constat. Ça sert à rien de répéter. On l'a tous vu.
Pourquoi aujourd'hui
on l'a tous vu.
Pourquoi Deschamps
Tu en as parlé sur les dernières semaines. Pourquoi Deschamps, il ne met plus Giroud au poste de numéro 9? Il te dit que physiquement, il a plus les mêmes cannes qu'il y a deux ans. Et pourquoi il te met pas Mbappé à gauche? Parce que ça a fonctionné. Ils ont été en finale comme ça.
Là encore, tu répètes un truc inutile, on le sait tout ça. Je te dis, projette-toi en avant, prends une décision. Ouais. Prends une décision.
Mais moi, je le mettrai à gauche. Mais ils le font pas.
Bon.
Je dis juste, ce que les gens te reprochent,
est-ce qu'on
c'est que t'as fait passer Luis Enrique pour un pit toute l'année.
Mais oui.
Mais si, en disant qu'en gros c'est une pompe à vélo.
Sortez-le.
Mais non. Pourquoi tu vas sortir l'un des meilleurs joueurs du monde? Pourquoi tu vas le sortir?
Mais non, il est pas bon.
C'est qu'il pose des problèmes à la perte de balles.
Donc
t'es obligé de le mettre libre.
Donc ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas un entraîneur capable de prendre une bonne décision.
Mais non, la réalité, c'est que ce que tu ne veux pas entendre, c'est qu'avec Kylian Mbappé, tous les coachs qui l'ont coaché, et ça continuera avec le Real Madrid, tu le verras, malheureusement, tu pourras pas en parler. Parce que tu parles pas du Real Madrid.
Donc,
tous les coachs ont essayé de le mettre dans cette position libre au poste de numéro 9.
Donc,
ils sont pas tous cons. Ils sont pas tous imbéciles.
C'est quand même incroyable ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu fais?
Mais moi, je t'ai dit que sa meilleure
qu'est-ce que tu fais
à gauche. Mais il pose aussi des problèmes quand il est à gauche.
Donc,
parce que quand il marque pas, quand il est pas
donc
bon.
Donc tu le sors.
Mais non. Pourquoi tu le sors?
Il a marqué plus de 40 buts cette année là.
Mais non, mais dans les gros matchs, dans les gros rencontres. Arrête, on va pas réécrire l'histoire de la saison d'Mbappé.
Il a marqué 40 buts.
Mais pourquoi on est taré?
Mais en fait
moment, on n'est pas en désaccord nous deux.
Décision.
Mais la décision c'est que lui,
mais
il te dit que je le mettrai à gauche. Par contre ces coachs là, ils le mettent en homme libre.
Alors c'est à toi je dis d'aller au bout du truc.
Ouais.
Pourquoi les coachs le font pas?
Mais parce qu'ils sont en train de t'expliquer.
Alors pourquoi ils le font jouer comme ça vu que ça marche pas?
Parce que pour eux c'est le meilleur des compromis. C'est-à-dire qu'il peut faire la différence. Il doit faire la différence.
C'est le meilleur des compromis. Oui, t'en es convaincu.
Mais t'en es convaincu. Moi je suis pas convaincu.
C'est ce que t'as vu cette année au PSG, ce que tu vois en équipe de France.
Moi je suis pas convaincu.
Moi je suis pas d'accord.
Mais déjà c'est deux contextes.
Moi je le vois pas.
C'est deux contextes différents.
Les résultats le même. Le contexte sont différents. Le résultat.
C'est deux contextes différents.
C'est pas bon. Ça marche pas.
Le Paris Saint-Germain, les deux numéros 9 ne convenaient pas au style de jeu du coach. Ils n'étaient pas performants. Plus il y a eu l'avènement de Barcola.
Donc
il a, plus le fait que Mbappé, défensivement, à chaque fois qu'il a joué à gauche, ça marchait pas non plus à gauche.
Okay.
Il faut être honnête.
C'est ce que...
Et Deschamps, c'est différent. Deschamps, même sur Griezmann, j'ai vu un article dans l'équipe, Gilbert, cette semaine, où il te dit qu'il peut plus jouer milieu relayeur parce qu'il n'a plus la caisse physique. C'est des articles de l'équipe, des insiders de l'équipe qui te disent que Deschamps, il rajoute un milieu de terrain supplémentaire parce que Griezmann, 2022, on peut pas le voir sur cette compétition.
Oui.
Donc, en fait, il
on a le droit de penser que Griezmann comme Mbappé pourrait tout à fait jouer malgré tout à gauche.
Mais
et
moi, je
poste,
c'est leur analyse.
Plutôt que de tourner en rond sur des débats inutiles.
C'est toi qui tourne en rond.
Non, c'est toi, les réseaux, vous tournez en rond.
C'est moi et les réseaux.
Vous tournez en rond. Est-ce qu'on ne peut pas simplement dire que tu as un Griezmann qui est nettement moins en forme et que c'est un peu le cours des choses, que c'est quelque chose de normal et que tu as un entraîneur qui va forcément avoir, comme dans toute l'histoire du football, quand t'as eu une star, un mec qui a été performant pendant des années, qui a un mal fou à prendre la décision définitive de le sortir. Là, on parle de Griezmann. Et qui va s'interroger. En gestion humaine, c'est peut-être plus simple et plus malléable Griezmann que Mbappé. Premier cas, c'est Griezmann. Il y a un problème, tu n'as pas de créateur si tu n'as pas Griezmann, donc tu vas probablement le faire jouer contre la Belgique en attendant qu'il soit meilleur et tu constateras si oui ou non. C'est des histoires qui se terminent. L'autre problème, c'est Mbappé. Mbappé, jusqu'à preuve du contraire en neuf, Luis Enrique a essayé, Deschamps essaye, la terre entière peut essayer.
Tourelle, Ancelotti va le faire.
Ça marche pas.
On verra s'il va le faire.
Il va le faire, Ancelotti.
Est-ce que les entraîneurs, sont enfermés dans la gestion d'un statut?
Ouais.
Auquel cas, ils ne font pas leur métier réel d'entraîneur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de décider de se priver de lui, parce qu'ils se disent, on peut pas se priver de lui, parce qu'il vaut, quand t'es dans un club, 100 millions, 150 millions, un salaire de malade, tout, donc on est obligé de le faire jouer. Donc, ils ne font pas leur métier d'entraîneur.
Pas le cas pour Deschamps, parce que Deschamps, il n'y a pas de transfert, c'est pour moi deux contextes différents.
Mais je vais y venir. Donc, ça, c'est premier cas, où le club est emmerdé, le Real, ils ont fait leur annonce, c'est le joueur qui est attendu depuis des années, machin. Ancelotti va être obligé de le faire jouer, d'accord.
Ah, bien sûr.
Imagine pas qu'il soit sur le banc.
Mais bien évidemment.
Voilà.
Donc, mais personne n'a parlé de Mbappé sur le banc, Daniel.
Mais
il n'y a que toi qui en parles.
Personne n'a dit ça. Mais parce que, en gros, ça sert à rien. En fait, soit on prend des décisions.
Oui.
Soit ça sert à rien.
Sa décision à Deschamps, c'est de le mettre numéro 9 avec 4 milieux de terrain.
Moi, je te dis, je donne ma version et ma décision comme je l'ai donnée toute l'année. Ce que peut faire un entraîneur, c'est aussi se dire, on va manger le déséquilibre, mais on va miser là-dessus parce que de toute façon, le faire jouer dans cette position, toute l'équipe est plus affaiblie que le déséquilibre de quand
tu joues sur le côté. Je suis d'accord avec toi, mais l'acceptes.
Et je mets même,
tu l'acceptes.
Et je dis même à Rabiot, à Théo Hernandez, démerdez-vous pour colmater.
Ouais. Bah,
il va courir que 8 km ouais. Et on va compter sur lui pour mettre les buts. Et
mais il faut faire gagner les matchs après.
Exactement. Ça, c'est solution 1. Ou solution 2, je suis un coach avec une personnalité de malade et je dis, écoute, mon vieux, on non, va construire
non.
l'équipe autrement.
Mais non.
Mais tu joues pas.
Non, c'est pas possible. Il faut qu'on garde
Mbappé, moi, je te dis qu'on perd du temps.
Non. Stop. Dans sur l'équipe de France, je voulais juste finir sur une dernière info, vous dire qu'Alexandre Lacazette était en conférence de presse aujourd'hui. Oh, l'alerte. Vous envoyez l'euro par SMS au 732-16. Maintenant, vous avez 5 minutes pour gagner votre place dans l'expérience RMC et partir à Düsseldorf lundi, assister à France-Belgique, RMC par SMS au 732-16. RMC vous offre l'avion, la place de match, la totale. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance dès maintenant. J'en reviens à Alexandre Lacazette en conférence de presse aujourd'hui. Mais manque de bol, c'était pas avec la bonne équipe, c'était avec les Olympiques. Parce que là, on aurait préféré qu'il soit en conférence de presse avec enfin, moi, personnellement.
Et juste une dernière chose, Daniel, par rapport au débat du Paris Saint-Germain.
Très content d'être avec Thierry Henry.
Qu'il y a juste une rapide. Il y a juste une réhabilitation des supporters du PSG et des suiveurs par rapport au fait qu'à l'Euro, t'as Vitinha qui joue 6 et Mbappé qui joue 9. Et que toi, t'avais dit que c'était que Luis Enrique faisait n'importe quoi. C'est juste ça. Mm-hmm. C'est un petit pied de nez. T'aimes bien le faire. On le fait avec toi
mais
aussi.
Mais ça ne marche pas.
D'accord. Bah oui. Mais en tout cas, c'est juste ça, Daniel.
Mais ça ne marche pas.
Oui, enfin, Vitinha en 6, c'est le meilleur portugais sur la phase de poule.
Bah, il n'a pas fait tous les matchs en 6.
Oui, c'est vrai qu'il n'a pas fait tous les matchs en 6. Mais
bah, donc, il y en a eu 3 des matchs.
Hein? Le premier match, il a joué 6. Okay.
Et aujourd'hui, il a joué?
Mais non.
Donc, 1 sur 2, ça suffit pour faire.
Mais
1 sur 2, ça suffit.
C'est pas une idée aussi.
Quand je dis que vous brassez du vent, vous brassez du vent.
Toi, tu brasses jamais de vent.
Bah non.
Toi, tu brasses jamais de vent.
Non.
Toi, jamais.
Non.
Tout ce que tu dis.
Mbappé en 9, ça marche pas.
C'est limpide. Toi, tout ce que tu dis, c'est limpide.
Mbappé en 9, ça marche pas.
D'accord, ok.
D'accord. Ça ne marche pas.
Mais non, mais c'est pas ça le débat.
Mais si, le débat, c'est de ça ne marche pas.
Je pense que dans le libre antenne, le plus grand turiféraire de Kylian Mbappé pourra prendre la parole. Il s'appelle Julien Cazard. Il sera là tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler des droits de télé. On se retrouve dans quelques secondes.
T'embrasses du vent.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, l'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Minuit et 21 minutes, encore 10 minutes d'after avec Walid Acherchour, Daniel Riolo. Vincent Labrune était donc aujourd'hui devant le Sénat, la fameuse commission qui enquête sur la financiarisation du football français, notamment sur l'accord qui lie la LFP à CVC. Bon, je vais vous livrer dans les grandes lignes ce qui s'est dit et puis vous m'interrompez si vous voulez évidemment apporter des précisions ou un avis. Voilà. Alors, Labrune questionné par le rapporteur Michel Savin sur le fait que 50% de son salaire soit refacturé à la société commerciale LFP Média, dont il est aussi président. Il a regretté là une mauvaise communication, Vincent Labrune, entre les équipes de LFP Média et celles de CVC.
Si c'est que de la com, tout
va bien. Parce que CVC avait donc découvert tout ça. Mmh. On a donc également questionné Vincent Labrune sur son golden parachute, puisqu'il a un golden parachute.
En plus de la prime de 3 millions.
5 millions d'euros d'indemnité en cas de départ. Alors, il a dit qu'il était prêt à renégocier, peut-être à voir. C'est peut-être un peu abusé quand même. Donc il va avoir la porte là-dessus. Sur CVC, il a dit que c'était un partenaire fiable, de long terme, qui représentait la meilleure option. La société commerciale, pareil, ça permettait au club leur survie à court terme. Il dit, Vincent Labrune, je suis là pour rétablir des vérités. Je veux saisir cette occasion pour le faire, cette fameuse audition. Alors, il parle de Canal. Il dit, moi, j'accable pas Canal, parce qu'en gros, il veut pas fermer la porte, hein, il veut surtout pas se fâcher avec eux aujourd'hui. Donc, par rapport à Mediapro, et par rapport au fait que j'ai parfaitement conscience des investissements massifs qu'ils ont dû faire à l'époque. Donc, en gros, il dit, bon, on comprend qu'à l'époque, ils ne sont pas allés plus haut que Mediapro, mais on n'allait pas donner les droits au moins 10 ans.
Gilbert, on n'a pas Vincent beaucoup Labrune. De temps, il faudrait dire ce qu'on a vu cet après-midi quand même. On a donc vu quelqu'un de pas souvent à l'aise. Parfois avec un sourire narquois pour cacher un embarras. J'ai vu à côté de lui le DG de la Ligue qui a au début beaucoup plus parlé que lui.
Heureusement Roger, que j'étais là.
Qui maîtrisait certainement plus les dossiers que le président de la LFP, qui est plus intéressé par l'argent qu'il doit toucher et les gavages successifs plutôt que par les destins des clubs français. On a vu quelqu'un qui donc à mon sens, d'après ce qu'on sait des dossiers, a énoncé plusieurs mensonges et contre-vérités qui ont ensuite été confirmés par les présidents qui sont venus suite à Vincent Labrune.
Qui sont des proches de Labrune, hein.
Qui ont dit que.
Kita, notamment, Nicolas.
Qui ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de certaines choses, alors que lui dit que tout le monde est toujours au courant. Donc évidemment que l'édifice, c'est même pas qu'il est en train de se fissurer, c'est qu'il est en train de tomber en ruine. C'est la première fois en fait qu'on a le patron du foot français, les patrons du foot français, les dirigeants qui viennent devant une commission où ils ne peuvent plus se cacher et ils sont obligés de parler. Et moi, quand je voyais ça, je voyais le spectacle d'un foot français et de dirigeants qui nous mènent là où est le football français aujourd'hui, de dirigeants qu'on critique depuis 18 ans dans l'after. On nous a tout le temps dit, vous exagérez, vous en faites trop, cette manie, cette fixette de taper sur les dirigeants du football français. Aujourd'hui, quelque part, on comprend pourquoi nous n'avons que 2 Coupes d'Europe dans notre palmarès, pourquoi nous avons eu besoin d'être sauvés par l'État pour nos droits télé, pourquoi on a surgonflé nos droits télé par des opérateurs qui ont mis de l'argent sans aucune rentabilité, pourquoi on a eu besoin du Qatar pour sauver le foot français, parce que personne ne voulait mettre des billes dedans, pourquoi on a eu besoin de fonds d'investissement pour venir à la tête de clubs qui n'auraient jamais été repris et qui auraient fait faillite depuis des années. On comprend tout ça au terme de toutes ces auditions, de tous ces présidents qui sont venus, qui ne suivent pas les dossiers, qui ne s'intéressent pas à la vie de la Ligue, qui disent, nous on est dans nos clubs, on ne sait pas ce qui se passe à Paris, on n'est pas au courant de ce que fait Vincent Labrune parce qu'on lui fait totalement confiance. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer demain? Ben on ne sait pas. Si jamais ça ne se passe pas comme on attendait, eh ben on le mettra dehors. Mais il sera trop tard quand vous le mettrez dehors. C'est bien avant qu'il fallait mettre dehors, parce que maintenant on va dans le mur. Donc
là,
il a
redemandé 3 semaines au président là.
Voilà.
Donc ouais, il travaille.
On attend qu'une porte s'ouvre. La porte qui va s'ouvrir, ça va être laquelle? Le nouveau gouvernement. Quel va être le nouveau gouvernement? Si le nouveau gouvernement est proche de Canal, et vous voyez ce que je veux dire, il est possible que quelque chose se passe de ce côté-là, parce que le prochain gouvernement pourrait demander, dans les premières missions qu'il va avoir, de faire un geste pour les clubs français. On en est à envisager ce genre de choses, c'est dire enfin, le marasme
c'est
dans lequel
on est.
Non, mais ça,
on gagne au foot, mais
je te dis pas ça.
Ouais.
Moi, je te
on perdrait.
Que, je te
on perdrait
Qatar,
énormément.
Je te signale que le Qatar, c'est pas non plus une bonne nouvelle.
Oui.
C'est pas non plus une bonne nouvelle.
Bien sûr.
Donc on est, mais c'est dire le marasme dans lequel on est.
Le Qatar, c'est au Qatar.
Aujourd'hui, tu te rends compte? Le football français dépend de la décision de Bolloré.
Bah complètement.
Et comme donc, le cinéma d'ailleurs dépend de la décision de Bolloré.
Et donc Vincent Labrune, une nouvelle fois.
Et il est complètement perdu, mais il croit à sa chaîne.
Il est méfiant sur ce qu'il dit sur sa chaîne.
Il a quand même dit que sa chaîne, il y croyait et qu'il avait envie d'aller au bout pour prendre son destin en main.
Il dit surtout parce que c'est la seule solution qui nous reste.
Mais c'est sans garantie, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'oseille dans les clubs.
Laissons la chance au produit de cette chaîne à 30 euros ou un IPTV ou de 50 euros à l'année, pourquoi pas.
Sans oseille en plus. Sans oseille, parce que les opérateurs n'ont pas donné l'argent avant.
Croyons-y.
Il nous reste 3 minutes. Mercato, les gars. De Zerbi est arrivé à Marseille ce matin avec une partie de son équipe d'entraîneurs. Rendez-vous avec les dirigeants, visite de la commanderie, bien sûr. Il est là. À Marseille, la prolongation de Balerdi est quasi actée. C'est
bonne nouvelle.
Hein. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour Marseille. Il devrait rester.
Il fallait prolonger ou le
deux ans de plus. De Laurentiis calme le PSG sur le cas. Sur le cas Kvaratskhelia. De Laurentiis, président de Naples, dit il est sous contrat. Je vois aucun problème avec lui. Après, il dit De Laurentiis, il peut y avoir ceux qui, contrairement aux règles, contactent les joueurs sur l'autorisation du club, comme par exemple un club présidé par un gars qui préside le CA. Bon, gros, il parle de Paris. Il dit nous pourrions le rappeler à l'ordre, ces gens-là. Il dit ça se fait pas. Dit De Laurentiis. Et puis Antonio Conte, qui est arrivé il y a peu à Naples, dit moi, Kvaratskhelia, je compte sur lui, intransférable. Ouais. Tout comme dit Lorenzo d'ailleurs.
Conte et De Laurentiis, ça va durer.
Je sens bon Anguissa.
Je pense que ça va durer longtemps. Les deux là, je leur donne pas 3 mois. Mais vraiment. Ouais. Je leur donne pas 3 mois, les deux.
Sauf si ça tourne bien.
Ouais, si ça tourne bien. Mais si je dois miser une pièce.
Donc voilà. Sinon, au niveau mercato, il se passe rien parce que de toute façon, les clubs évidemment pour l'instant ne peuvent pas faire grand-chose.
Ils n'ont pas de thunes, donc à part vendre, ils peuvent pas rien faire.
Si, des joueurs libres. Par exemple, Nantes essaie de faire venir Enrique, l'ancien latéral gauche de Lyon. Et du coup, il a pas de club.
Ouais, le remplacement.
On en est là, quoi.
Ouais, voilà, exactement.
Ouais. On est au mec qui n'a plus de club.
Et puis sinon, sachez
que est dispo, il est en plein régime. Deux semaines de prépa, il peut rentrer dans un groupe.
Depuis le Maroc. Depuis le 5 juin.
Non, mais il a perdu moins 7 kilos en un mois, le gars.
Même pas là, en un mois. C'est très sérieux ce que je fais.
Soyons sérieux, en 23 jours.
Très impressionnant.
Après, vu mon hygiène de vie, je pense avant le 5 juin, c'est très très facile de perdre chez moi.
Le gagnant du jeu est là. Antoine a été tiré au sort. Salut Antoine.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Walid.
Eh ben écoute Antoine, est-ce que j'espère que t'as rien à faire lundi.
Non, de cette là j'ai tout arrêté.
Voilà, tu vas t'organiser, enfin j'espère, puisque donc tu vas pouvoir aller à Düsseldorf assister à France Belgique.
Cadeau
de RMC, expérience RMC, l'avion.
Nous on sera à Artigues.
Exactement.
Merci à vous Gilbert.
Bah Antoine, j'espère que tu vas te régaler.
C'est un cadeau exceptionnel. Un énorme merci à vous.
Pas de soucis. Salut Antoine, bon voyage.
Salut Antoine. Merci. Et il va tout seul, il va le droit d'emmener quelqu'un.
Il y a un plus un ou pas? Tu sais, comme dans les soirées.
J'avoue que
tout seul, il va se faire chier quand même.
Non, ça va aller, je pense, tout seul.
Ah, il y a un plus un, Antoine?
Il y a un plus un.
Oh, il y a un croquage. Oh là là,
bravo.
Qui sera ton plus un, Antoine?
Bah écoute, j'ai demandé aux parents de mon filleul, qui est fan de foot, qui est fan d'Mbappé, de l'équipe de France. Il a 11
ans. À qui?
Ah,
il en reste.
Bah normalement, il a école, mais bon, on peut peut-être faire une petite exception pour cette fois.
Voilà, le filleul d'Antoine, c'est beau. Salut Antoine, merci beaucoup.
Merci Antoine,
d'avoir joué.
Merci à vous, Gilbert, Daniel et Walid.
J'ai une question à Julien Cazard.
Ouais.
Oui. Sera-t-il pour la France ou la Belgique lundi?
Écoute, j'ai envie de passer des bonnes vacances, donc je pense qu'une victoire de la Belgique me ferait le plus grand.
Oh le canard! Quel canard!
Je ne sais pas ce que c'est.
Oh le gros canard!
Back to the sub, ça ne sera pas possible. Non.
Tu pars à Knokke-le-Zoute en vacances?
Ben non, mais madame est belle.
Ah
hein.
Oui.
Ouais. Non, il est plus Charleroi pour les vacances.
Oui, je vais visiter la maison de Marc, Marco. Voilà.
C'est la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin.
Et il n'y a pas que du vin.
Ouais, tais-toi.
Pardon.
Salut Daniel, salut Olivier.
Salut docteur.
RMC, l'after foot intégral.